With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est l'histoire d'un duel. Un duel où, comme dans un western de Sergio Leone, la tension monte tout du long avant un final étourdissant. Dans cette quête de titre de l'année 99, les fines gâchettes s'appellent Will Tord, Ravanelli, Lasland, Pires. Dans cette lutte pour le titre entre Bordeaux et Marseille, il y a quelque chose de nostalgique aussi déjà. Les Girondins ont dominé le foot français dans les années 80 et reviennent enfin au premier plan. Marseille, pour une poignée de dollars, a passé deux saisons dans un purgatoire appelé D2. L'OM renoue enfin avec sa réussite sportive, mais traîne encore comme un boulet l'affaire VAOM et les soupçons de triche qui maculent les titres glanés sous l'air tapis. Durant toute la saison, Marseillais et Bordelais se sont disputés la tête du classement. Pas moins de 12 changements de leader entre les deux clubs. À l'aube de cette dernière journée, Bordeaux a son destin en main. Les Girondins ont un point d'avance sur les Phocéens et seront sacrés en cas de succès au Parc des Princes face au PSG. L'OM, lui, doit s'imposer à Nantes et espérer un coup de pouce de son ennemi de toujours. Bref, le décor est planté. Au soir de ce 29 mai 99, la D1 regarde ces deux monstres s'affronter à distance.
34e journée du championnat de France de première division. Le titre 99 va se jouer dans 90 minutes. Alors Bordeaux ou Marseille ?
Pour parler de cette formidable 34e journée, le bon Geoffroy Garrettier, qu'est-ce que vous faisiez ce soir-là, Geoffroy ?
Eh bien, je vous donne toujours la même réponse, Paul. Je suis devant ma télé à suivre le multiplex de Canal+.
La brute Stéphane Guy, même question. Ne mentez pas, j'ai la réponse.
Grâce à Geoffroy Garrettier, je gagne déjà ma vie à Canal+.
Et il reste le truand Mickaël Madar. On ne vous demande pas ce que vous faisiez ce soir-là. Puisque...
Je regardais aussi à la télé,
non,
moi,
non,
pareil.
Non, ça, c'est pas vrai. Vous étiez sur le terrain avec le Paris Saint-Germain. On entend Thierry Gérardy qui dit Bordeaux ou Marseille. Vous, en tant que téléspectateur ou amoureux de foot, à l'époque, votre cœur balançait pour quelle équipe, Stéphane ?
Ah, moi, je n'ai pas le droit de voir mon cœur balancer dans ces moments-là. Donc, non, j'étais un spectateur... très attentif de ce dénouement-là. Je crois que je commente un match à Nantes. Enfin, c'est ce que vous m'avez dit, Paul. Je n'ai aucun souvenir de cela, mais il paraît que je commentais Nantes-Marseille.
Le Nantes-Marseille, exactement. Pour bien comprendre comment on en arrive là, il faut revenir quelques semaines en arrière. Marseille, alors leader, perd à Paris après avoir mené. Et Bordeaux, lui, vainqueur à Lens, reprend la tête après avoir été en grande difficulté. Mickaël, vous avez joué un rôle prépondérant dans cette victoire du Paris Saint-Germain face à Marseille, qui prive finalement, on le saura après quelques semaines, l'OM de titre.
Oui, c'était un match capital pour Marseille. C'était quand même important pour eux de gagner ce classico. Et malheureusement pour eux, on avait gagné avec une équipe qui était à l'époque assez moyenne. On avait été dominé presque jusqu'au premier but, on m'était dominé. Et puis deux changements de Roland Courbis à ce moment-là, qui sort, je crois, Dugarry et Maurice. Et ça a été fini, quoi. Il n'y avait plus de point d'appui devant. Et ça n'attaquait plus. Donc nous, on a pris le dessus et on a réussi à gagner ce match qui était quand même assez incroyable.
Je reviens un tout petit peu sur cette rencontre entre Marseille et Paris. En même temps, Lens qui perd contre Bordeaux à domicile. Parce qu'à ce moment-là, Geoffroy, dans la soirée, il y a eu 5 points d'écart entre Marseille qui était leader et Bordeaux qui était en train de perdre à Lens.
Oui, Bordeaux en plus qui restait sur une mauvaise série, si ma mémoire est bonne. Ils avaient pris un point en 3 journées. Et les deux équipes commencent à patiner, elles font un peu de surplace. En plus, Marseille va très loin en Coupe de l'UEFA cette saison-là. Et on sent que ça commence à manquer d'air. Et il y a cet incroyable renversement de situation dans les 10 dernières minutes au Parc des Princes qui fait que Marseille, on va dire, là pour le coup... perd plus qu'un match, plus qu'un classico.
Ouais, on va parler de la dernière journée, mais le titre il s'est joué ce soir-là, avec la victoire de Bordeaux à Lens et la défaite de Marseille à Paris. Paris, Mickaël, qui sauve sa saison. C'était une saison assez piteuse.
Exécrable. Si on n'avait pas gagné ce match-là, je crois que ça aurait été la fin du monde à Paris. On avait déjà été un peu bousculé par les supporters avant ce match-là.
Avec l'histoire des Danettes.
Oui, avec l'histoire des Danettes sur les voitures. Et voilà, c'était impératif pour nous de remporter ce match. Parce que je ne sais pas ce qui serait passé, quoi. Honnêtement, on avait vraiment raté notre saison.
Et il y a donc le soulagement, la colère des supporters parisiens est apaisé. Mais il y a une autre exigence, du coup, de la part des supporters parisiens, c'est de perdre le dernier match contre Bordeaux, parce que les Parisiens veulent absolument éviter que Marseille soit champion.
Ça, c'est les supporters.
Oui, on parle bien des supporters.
C'est pas les joueurs.
Je me permettrai pas, Michael. J'ai rien, aucun élément pour dire ça. Avant dernier, qu'on n'y a plus en penser.
Avant dernier, donc, rebondissement d'un championnat qui changeait de leader chaque journée. Nous voilà à Paris pour Bordeaux et à Nantes pour l'OM. Bordeaux et François Grenet, qui sont dans le couloir juste avant de rentrer sur la pelouse du Parc des Princes. Ils sont tranquilles, les Girondins.
On n'a rien changé aux habitudes. Je crois que c'est ce qu'il y a de pire pour se mettre à la pression. Et on est serein, pas à l'excès, mais on est serein, on a confiance en nos forces.
Tranquille, serein, Stéphane, les Bordelais, alors que quand même, quand bien même c'est un pari en difficulté ou qui ne réalise pas une grande saison, c'est toujours compliqué de venir s'imposer au Parc.
Bien sûr, bien sûr. Et puis, il y avait le précédent, justement, la victoire de Paris sur Marseille. Moi, les souvenirs que j'ai quand même, même s'ils sont quand même lointains, c'est que peu de pronostiqueurs imaginaient le Paris Saint-Germain dans ces conditions-là, à ce moment-là, et au terme de cette saison-là, battre Bordeaux.
Vous étiez comment, vous, Mika, avant cette rencontre contre Bordeaux? Parce que vous n'avez plus rien à jouer, en fait.
On n'a plus rien à jouer, mais bon, après, on reste quand même professionnel. Moi, je sais que, en plus, je suis arrivé à la mi-saison, donc je ne pouvais pas me permettre de louper des matchs. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas, peut-être pas la motivation nécessaire pour gagner un match comme celui-ci.
Il n'y avait pas de double prime pour battre Bordeaux ce soir-là, quand même.
Non, honnêtement, il n'y a rien eu à ce niveau-là, au niveau financier. Non, c'était les joueurs n'étaient pas. N'était peut-être pas à 100%, quoi, psychologiquement, je parle.
Un point d'avance pour les Bordelais avant cette 34e journée. Ils sont sereins, ils ont de la confiance. Et pour cause, Sylvain Wiltord marque déjà son 21e but de la saison.
Au Parc des Princes, Paris Saint-Germain-Bordeaux, Philippe Brouet.
Oui, après un quart d'heure de jeu, but ici au Parc, but bordelais, signé par le meilleur buteur du championnat, Sylvain Wiltord, avec une longue ouverture sur la gauche. Wiltord, vous allez le voir, s'est retrouvé bien seul, en tout cas avec de l'espace. Et il a pu aller défier Bernard Lama, un ballon qui a touché le poteau, et pour rentrer dans le filet parisien.
Mika, on ne peut pas croire quand même que vous n'en avez pas parlé entre vous, les joueurs du PSG, à se dire, vous vous rendez compte que si on battait Bordeaux, ça pourrait sacrer Marseille. Vous en avez discuté quand même avant.
Honnêtement, j'en ai pas le souvenir. Hein. Je sais pas, on n'a même pas évoqué le fait de battre Bordeaux pour bien finir, ou de perdre contre Bordeaux pour éviter que Marseille soit champion. On n'a même pas évoqué le sujet, quoi, c'est ça. Après, je vous dis, c'est plus dans le comportement sur le terrain qu'on a retrouvé ça. Quoi.
Je reviens sur ce que disait Stéphane, sur le fait qu'aucun pronostiqueur n'aurait vu Paris battre Bordeaux. Bordeaux joue vraiment très, très, très bien au foot cette saison. Au mois de janvier, il y a eu Bordeaux-Marseille. Bordeaux a gagné 4-1. Marseille a été mais vraiment surclassé. Il y avait le 4-4-2 de Elie Baup.
C'était le match aussi, un des matchs tournants de la saison.
Il y avait 4-0 à la mi-temps.
Il y avait 4-0 à la mi-temps. Et donc le 4-4-2 de Elie Baup est parfaitement huilé. Lasland et Wiltord devant. Benarbia et Mikou en meneur. L'un excentré, l'un en soutien, selon les situations de match. Même si Mikou est suspendu pour ce match, Bordeaux est nettement au-dessus sur le plan du foot. Donc le favori de cette rencontre, c'est évidemment Bordeaux, et le début de match vient renforcer cette impression.
C'était le cas aussi, Geoffroy, pour le PSG-OM. Il n'y avait pas de débat cette année-là entre les
deux. Sauf que c'est le classico.
Et celle du Paris-SG. Voilà. Mais il y avait une motivation
supplémentaire pour les Parisiens
ce soir-là.
Bien sûr.
Ouais. Alors Bordeaux fait le boulot au Parc, Marseille aussi en Loire-Atlantique.
Camara avec Pires. Camara encore, c'est bien fait, le 2. Et ça continue, le 3. Et l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille avec Robert Pires. Une action magnifiquement amené par Didier Camara.
On reconnaît la voix suave de Stéphane Guy, de l'infernal Stéphane Guy. C'est quoi un 1-3, Stéphane? Je vous entends dire le 1-3, expliquez-nous.
C'était le début des inventions, j'étais déjà
football moderne. T'es dans le football moderne déjà.
Marseille, oui, fait son boulot également à Nantes, à la Beaujoire, avec un double 1-2 entre Titi Camara et Robert Pires.
Marseille est encore une fois une très très bonne équipe, mais je répète que Marseille a perdu beaucoup d'énergie dans sa campagne européenne, ce qui est d'ailleurs pas une première, hein, ce qui leur a coûté cher assez régulièrement, à commencer par l'année dernière. Et on sent malgré tout, même si l'OM est très motivé, même si l'OM est supérieur à Nantes, qu'il tire un peu la langue, quoi. Physiquement, c'est pas.
Pourtant, il y a un gros effectif à Marseille cette année-là.
Ouais, mais
gros effectif.
Marseille fait son travail à Nantes avec l'espoir que Paris va accrocher Bordeaux. À la mi-temps, Roland Courbis, alors entraîneur de l'OM, espère.
Roland, par rapport au moins ici, tout se passe bien pour vous.
Oui, bon, on s'est fixé comme objectif de gagner ici, d'avoir 71 points. Et après, on écoutera le résultat de Paris-Bordeaux.
Pas avant ?
Vous êtes là pour nous mettre au courant aussi.
Michael, est-ce que vous, par pure curiosité, à Paris, vous saviez ce que faisait Marseille dans le même temps ?
Non, mais bon, on le voyait à travers les visages des Bordelais. Oui, on savait
comment Michael, vous vouliez que Paris soit, que Bordeaux soit champion ou que Marseille soit champion ?
Je vous avoue franchement, ça n'avait aucune importance pour moi parce que des deux côtés, j'avais des amis. Donc, que ce soit Marseille ou Bordeaux, après, l'adversité qu'il y a entre Paris et Marseille depuis des années... Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Je suis pas anti-marseillais, loin de là. Donc voilà, il y avait Ali Benarbia qui était, et Johan Micou qui jouait à Bordeaux. Et de l'autre côté, il y avait du gars qui est quand même un bon ami. Donc franchement, je ne voyais pas l'intérêt de laisser gagner ou perdre une équipe.
Mais chez vos coéquipiers, Michael, est-ce que vous avez senti un certain relâchement ?
Moi, j'avais senti, ouais. Honnêtement, j'avais senti sur certains joueurs Et maintenant, parce que j'ai re-regardé les images, le peu d'images qu'il y avait sur ce match-là, dernièrement, et je me suis aperçu quand même, j'avais pensé que Bernard Lama avait laissé passer un peu certains ballons. Et je m'aperçois qu'à un moment, à 2-2, il a un arrêt à faire, et c'est un arrêt vraiment un arrêt de grand gardien, et il l'a fait. Alors maintenant, je suis plus convaincu pour Bernard. Pour les autres, oui, mais pour Bernard...
Vous n'en avez jamais reparlé après avec lui ?
Non, pas du tout. Non. On n'a pas eu trop l'occasion. Lui, il est parti assez rapidement, je crois, en Guyane, il me semble. Donc, on ne s'est pas trop recroisé. Mais franchement, on l'a pas vraiment évoqué. Mais après, quand on est sur le terrain, on ressent certaines choses.
Et avant le match, vous en aviez parlé ou pas ?
Non, pas du tout. Non, mais franchement, pas du tout.
Il est parti en Angleterre avant de partir en Guyane. Quand même. Ouais. Et après, il est revenu à Paris, Bernard Lama. Ouais. Et à Rennes.
Voilà. Ouais. Mais voilà, quoi, ça fait longtemps que je l'avais pas revu. Quoi, donc.
Ça fait partie du mythe de cet affrontement, de savoir si Paris ou non a lâché le match, Geoffroy.
Mais il y a eu plein de tas d'articles de presse qui ont été écrits. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, dans les archives, un papier dans le JDD où un joueur quelqu'un de l'entourage du club disait 99, il y a eu des comportements suspects. Quand du club, c'est du PSG, évidemment, hein, qui laissait entendre que... il y avait une volonté qui était collective que Marseille ne soit pas couronnée. Mais on n'a jamais eu, évidemment, le moindre élément de preuve à ce niveau-là.
À Paris, Bordeaux mène et donc est provisoirement champion. Rien n'est fait parce que Paris, on l'a dit tout à l'heure, a été renversant contre l'OM quelques semaines plus tard. Et ça, Sylvain Wiltord s'en souvient.
C'est vrai qu'on est un petit peu timoré vu qu'on attaque que à 2 à 3 et que derrière Paris récupère tous les ballons. À mon avis, il faudra, quand on attaque, un peu resserrer au milieu.
On sait que Bordeaux ne sait pas défendre, alors est-ce que vous allez attaquer ou essayer de préserver cet avantage ?
Non, le jeu de Bordeaux toute l'année, ça a été de jouer, alors là on va encore jouer. Alors on va essayer d'attaquer à 3 et défendre à 8 parce que là c'est trop important.
Qu'est-ce qu'elle avait de spécifique, Stéphane, cette équipe bordelaise dans le jeu ? Est-ce que vous en souvenez ?
Oui. Non, c'est un très beau champion de France. Un champion de France qui a marqué les esprits par la qualité de son jeu avec le 4-4-2, effectivement. C'est un peu le... Si on pense à un 4-4-2 et à une équipe championne de France en 4-4-2, on pense forcément au Bordeaux de cette année-là. C'était le système parfait avec effectivement deux grands joueurs. Un d'ailleurs qui viendra à Paris quelques mois après, c'est Ali Benarbia. Et puis Johan Micou qui était au top, qui ont fait une saison tous les deux magnifique.
Qui était suspendu pour la dernière journée, Geoffroy ?
Oui, c'est ça. Mais ça n'a pas empêché Bordeaux de réciter son football. Hein,
mais moi, ce que je me souviens quand même dans ce match-là, c'est que Bordeaux n'avait pas été spécialement supérieur à Paris. Comme j'entends dire Wiltord, on attaquait à 3. Ils étaient quand même méfiants. Ils avaient peur d'être pris en contre, comme on avait fait contre Paris.
Ils étaient rattrapés par l'enjeu.
Voilà. Et je pense qu'ils ont été un peu dans la retenue pendant presque tout le match. Et c'est presque miraculeux de marquer ce troisième but dans les arrêts de jeu à la fin. Hein.
Alors à la mi-temps, tout le monde se repose, sauf les téléspectateurs de Canal qui voyagent de Bordeaux à Marseille. Ils vont d'abord en Gironde pour voir qu'à la patinoire Mériadec, ils sont 7000 à s'entasser devant l'écran géant. Et tout porte à l'optimisme.
On va gagner. Nous, c'est sûr, on est champions ce soir. Patinoire. On renverse Bordeaux. Tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont devant leur télé, Bordeaux, il est en feu ce soir. On est champions, c'est super. On sera champions l'année prochaine. La Ligue des champions, on gagne tout.
L'optimisme, la passion ou un pastis de trop, appelez ça comme vous voulez, aussi c'est de mise dans le sud-est puisque là aussi on s'attend à être sacré.
J'imagine que du côté du Vieux-Port, l'espoir est revenu après l'ouverture du score à la Beaujoire.
On sera encore champion de France cette année, on sera champion de l'OM, on sera champion de France.
Ouais, il faut tous finir champion là.
Oui, mais c'est, pour Marseille, je comprends qu'il y ait cet espoir fou. C'est la première fois que Marseille est compétitif, en fait, vraiment pour le titre, depuis la fin des années Tapie. On l'a dit en préambule, Marseille a passé donc 2 ans en D2 dans les remugles du scandale de VAOM. Et puis, les retours en D1 étaient très compliqués. La première saison, on va pouvoir appeler, ils ont pris un 8-0 à Lyon. Courbis est arrivé, ils font 4e la première saison. Et là, ils se battent pour le titre. Pendant très longtemps, d'ailleurs, on pense que, enfin, ils font la course en tête. On se dit, ça y est, c'est leur année.
Mais
et
non. C'était le plus gros effectif du championnat.
Oui, bien sûr. Dugarry.
Il y avait les champions du monde. Il y avait Pires, il y avait Blanc,
Dugarry, Ravanelli.
Maurice.
Un paquet de joueurs de très, très. Laurent Blanc, enfin, très haut niveau, quoi.
Et Blondeau.
Non, Maurice était à Marseille.
Non, Maurice était à Marseille.
Était à Marseille, oui.
Alors on
je vais juste m'apercevoir, oui. Il y avait Gourvennec aussi.
Oui, Jocelyn Gourvennec qui jouait à l'Olympique de Marseille à l'époque. Vous l'avez entendu dans la bouche des supporters des deux camps. Tous y croient encore au début de cette deuxième période.
Eh bien, il y a de l'espoir partout. C'est parfait pour notre soirée. On va vivre des deuxièmes périodes pleines d'intensité dramatique.
Il ne sait pas, à ce moment-là, Thierry Gilardi, quand il dit ça, qu'on va vivre peut-être les 45 minutes les plus folles de l'histoire du championnat de France, Stéphane.
Ouais, enfin, je pense que la série là que vous sortez en podcast montre qu'il n'y a pas eu que ce jour-là. Hein. Il y a des dénouements de championnat complètement incroyables. Mais celui-là, effectivement, oppose deux grandes marques de notre championnat, deux grands clubs, deux grandes institutions. Bordeaux-Marseille, c'est pas l'affrontement de Lens-Metz la saison d'avant. Là, on a affaire à des clubs multititrés et suivis par des milliers, voire des millions de supporters.
Bordeaux-Marseille, il faut se rappeler ça, parce que les jeunes générations maintenant sont habituées à la domination du PSG, il y a eu celle de Lyon avant. Mais Bordeaux-Marseille, il y a eu 4 duels pour le titre dans l'histoire du foot français. Il y a eu 87, 90, donc 99 cette saison-là, et puis 10 ans plus tard, en 2009. Et Bordeaux-Marseille, c'est 4 finales de Coupe de France également. Vous voyez, donc,
L'un
contre l'autre. Donc là, on est dans un vrai grand duel classique du championnat, même si aujourd'hui, le classique est un peu jauni.
C'était autre chose, ce Bordeaux-Marseille, Mickaël, il y a quelques années, comme le dit Geoffroy.
Bah, c'est pour dire, avant je le regardais, maintenant je ne regarde plus. Donc voilà, ça n'a pas le même attrait, quoi, je trouve. Hein. C'est vrai qu'avant, je me demande si c'était pas... C'était bien le match avant le Classico, ça. Avant que le Classico existe, c'était
Best tapis, c'est ça. C'est le gros match français.
Avant la rivalité Paris-Marseille, il y a eu la rivalité Bordeaux-Marseille. Bordeaux-Marseille d'un côté, Tapie de l'autre.
Le premier truc que Tapie fait, c'est une petite dégression, mais quand il prend Marseille en mars au printemps 86, Casson Defer lui donne le club, il va piquer Alain Giresse à Bordeaux. Giresse qui a 34 ans, qui est un peu en bout de course,
mais qui reste, veut pas partir,
mais qui reste un des gros joueurs du championnat, et Baize a envie d'un peu de se débarrasser de lui, mais
oui,
là,
il le pique pas parce que Bordeaux est très complaisant avec l'OM sur ce coup-là.
Mais cela dit, ça fait quand même la rivalité. Vraiment, elle naît à partir de ce moment-là.
Voilà. Elle arrivait ensuite en Cadillac au Vélodrome, etc.
Juste une question quand Giresse il marque en finale de Coupe de France.
Il marque avec Bordeaux.
Avec Bordeaux
la contre finale Marseille. 86 en prolongation.
Contre Marseille.
Le Lob.
Et ensuite, c'est l'été suivant qu'il part à Marseille.
On revient à cette dernière journée où, juste après la reprise, Bordeaux mène 1-0 au Parc. Marseille mène 1-0 à Nantes. Pour l'instant, les Bordelais sont titrés. Pour l'instant, seulement.
Okocha. C'est loin, mais ça passe juste dans les pieds. Beau ballon, le centre est gros danger. Et but! But, égalisation ici pour le Paris Saint-Germain par Bruno Rodriguez, 21h14, c'est Marseille qui passe en tête.
Là, vous donnez un sérieux coup de main à l'Olympique de Marseille en marquant et en égalisant contre les Bordelais, Mickaël.
Surtout quand Marseille mène 1-0, mais je voulais dire sur ce but-là, je crois que Rodriguez, il a marqué sur l'action la plus difficile en fin de compte. Et encore, je crois que c'est même du genou ou de la cuisse qui marque.
Non, c'est pas très clair.
Parce qu'il a eu une occasion juste avant. Je sais pas comment il a fait pour la mettre au-dessus.
C'est un but à la Ocampos, ça, Stéphane. Qui marque Bruno Rodriguez.
Ouais, c'est ça. L'Argentin Bruno Rodriguez.
Pour la première fois de la soirée, l'OM est devant. Il reste environ une demi-heure à jouer.
Le public marseillais le sait parce qu'il a redoublé d'intensité. Regardez, on souffle.
Ah oui,
on regarde sa montre sur le banc et on se dit encore une demi-heure à tenir.
Vous reconnaissez là, Stéphane, c'est bon.
C'est remarquable. Pour un jeune journaliste débutant comme moi, c'est remarquable.
Marseille qui, pour l'instant, est devant, ça ne va pas durer très longtemps, Geoffroy.
Non, mais ils font ce qu'ils peuvent faire. Ils sont au taquet. Ils ont un objectif à remplir, qui est d'être à 71 points et d'espérer un faux pas de Bordeaux. Et pour l'instant, le calendrier l'agenda est respecté.
L'agenda est respecté, mais quelques minutes plus tard, les Bordelais marquent le deuxième but sur la pelouse du Parc des Princes.
La joie à la patinoire de Bordeaux en regardant le but des Girondins qui permet à la formation des Libaumes de repasser en tête.
Là aussi, celui-là, c'était un but important qu'on avait raté à l'époque sur le multiplex de Canal. Stéphane, vous étiez à la Beaujoire. Est-ce que vous sentiez, à travers les réactions du banc marseillais et des supporters, qu'il y avait un but parisien ou un but bordelais au Parc des Princes?
Oui, bien sûr. Ça, c'est les adversaires suivaient les résultats de l'autre à distance, forcément. Et l'enthousiasme évoluait à la mesure que les buts étaient marqués.
Mais ça, juste pour dire que quand tu es téléspectateur, tu regardes devant ta télévision et tu as ce genre de dénouement, c'est assez exceptionnel. Mais quand tu es sur le terrain et tu le vis parce que ça te concerne, mais c'est horrible. Quand il y en a un qui marque, l'autre qui égalise, ça remarque d'un côté, et puis à l'arrivée, bah, tu gagnes dans les arrêts de jeu comme ça s'est produit.
Est-ce que vous, sur la pelouse du Parc, Michael, vous sentiez
moi,
l'évolution de la soirée?
Bien sûr qu'on le sentait. Les Bordelais, de toute façon, à partir du moment où ils passaient devant, déjà, ça jouait plus défensivement, ça attaquait plus. Donc, c'était plus le même. Après, dès qu'on a commencé, on a marqué le deuxième but, bah, c'est reparti à attaquer parce qu'ils voulaient gagner à tout prix. Et donc, on le sent. Après, on leur annonce le résultat. Marseille est toujours 1-0. Donc,
vous les entendiez, les Bordelais, parler, se dire.
On n'entendait pas. C'est tout le monde parlait de ça, quoi. Sur le terrain, ils se parlaient entre eux. Donc, à chaque fois, on savait ce qui se passait, quoi. Donc,
Geoffroy.
Il y avait en plus. Il faut se remettre dans le contexte de cette équipe parisienne qui vit sa première saison ratée de l'ère Canal+, en fait. C'est la première saison de l'après Deniso. Il n'est plus donc président depuis l'été dernier. Hein. C'est Charles Bietri qui est arrivé 98. Au départ, qui a pris l'équipe. Il y a eu un recrutement ambitieux, mais raté. En gros, il y a eu des joueurs qui n'ont jamais donné ce qu'ils étaient censés donner, comme Christian Worms, Alain Giresse qui est arrivé et qui est reparti tout de suite, bien sûr. Et puis il y a eu donc Arthur Georges et pour finir,
Philippe Bergerot.
Je pense que la mission d'être l'arbitre du championnat est trop lourde pour l'équipe. Globalement, ce que je dis de Michael est tout à fait vraisemblable. C'est que c'est trop gros pour vous, quoi.
Ouais. Marseille rêve désormais d'un but de son rival parisien. Les Marseillais font toujours le travail, on le rappelle, à Nantes. Bordeaux mène à Paris. Il faut absolument que le PSG marque pour que l'OM soit sacré. Il reste 13 minutes à jouer. Le championnat va de nouveau basculer au Parc des Princes.
Attention, Edelton, Simonet, il y a le roi là-bas en renfort pour centrer. Maintenant, le danger et le but. But d'Edelton qui rechange tout dans le championnat de France. À l'instant, ici au Parc des Princes, ce sont les Parisiens qui égalisent et Marseille repasse en tête.
Deuxième changement de leader dans la soirée. Ça y est, Mika, vous êtes enfin rentré dans le match.
On est rentré dans le match. C'est surtout Edelton qui était rentré dans le match.
Mais surtout,
je l'ai vu rentrer. Je ne sais pas ce qu'il y a eu.
Qui avait traversé de façon fantomatique. Geoffroy a parlé d'un recrutement raté.
C'était...
Il en était l'un des symboles,
Edelton. C'était pas un mauvais joueur.
Il arrivait de Parme. Hein. Et ce match-là, lui, on a l'impression qu'il est hors sujet par rapport à la rivalité Paris-Marseille, les enjeux pour
Bordeaux.
Lui, il est dans sa planète. Quoi.
Exactement. Mais, il est rentré à 200 à l'heure, le gars. Il courait partout. Jusqu'à ce qu'il marque. Il voulait même marquer un deuxième, un troisième, je sais pas ce qu'il avait. Il courait partout alors que tout le monde était tranquille, quoi. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu.
Il y avoir un club qui
lui, ouais, je sais pas, mais bon.
Ada Hilton, c'est un des mystères parfois, un grand mystère j'ai envie de dire du foot business à la brésilienne. C'est un joueur qui fait remarquer. Il a à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, en 97, si ma mémoire est bonne, il marque 7 buts. Dans un match avec le Brésil, 7 buts. Et on se dit, oh, Ada Hilton, c'est le nouveau Ronaldo, le nouveau Pelé, le nouveau. Tout ce que vous voulez. Et en réalité, ce joueur n'a jamais confirmé les espoirs ou les petits espoirs placés en lui. Jamais.
C'est pas le seul, Geoffroy.
Non, mais lui.
Il a eu des dizaines.
Comme Denilson ou autre brésilien.
Nouveau changement de leader en tête de D1 à Nantes. Même l'infernal Stéphane Guy n'en croit pas ses yeux.
Quelle fin de championnat. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre, une soirée pleine de rebondissements, pleine d'émotions. Ah, il faut avoir les nerfs solides ce soir quand on est supporter de l'Olympique de Marseille.
On va alors entrer dans ce qui est les 7 minutes les plus importantes de la carrière d'un gamin, alors inconnu à l'époque.
Pascal Feindouno est tiré. On va rentrer là dans la 85e minute. Ça veut dire qu'on a eu la confirmation tout à l'heure à Nantes. On a démarré avec 3 minutes de retard. Ça voudra dire que si on en restait là, eh bien, les Marseillais seraient champions avant la fin de leur match. C'est pas fini.
Stéphane, des Pascal Feindouno. Tous les week-ends, quand vous commentez des matchs, il y en a des jeunes joueurs sur le banc qui, à l'époque, on le rappelle, a seulement deux matchs de Ligue 1 et qui rentrent à la 83e pour essayer d'aider Bordeaux.
Oui, c'est une histoire. Lui, sa carrière a été longue, très longue même à Pascal Feindouno. Mais quand vous dites Feindouno, tout le monde pense à une chose, c'est effectivement ces 5 minutes jouées au Parc des Princes en 99. Quoi. C'est incroyable parce que sa carrière, elle est là.
Vous saviez qui c'était, Mickaël, quand il est entré en jeu ?
C'est pas ça, c'est le problème. Je savais qui c'était, mais avec le recul maintenant, je ne pensais pas qu'il avait 17 ans. Je l'ai su parce que j'ai regardé encore donc, 18. Les images.
18. Au moment du match, il a 18 ans.
Ils ont annoncé 17. Bon, c'est pas grave, mais bon, 18. Ça change pas grand-chose. Hein. Je pensais qu'il était beaucoup plus vieux que ça, quoi. Mais mettre son destin entre les mains entre les pieds d'un jeune joueur comme ça, le faire rentrer, je vois pas l'intérêt. Mais alors,
quelle histoire, Feindouno, quand même, il faut. C'est un truc de fou.
C'est un drôle de joueur.
Il arrive de Conakry, il fait un essai à Lens, ça se passe pas bien, il est pas gardé, il rebondit à Bordeaux, c'est Eli Bob qui le prend un peu sous son aile et c'est tellement bien vu de la part de Bob. Que c'est lui qui, lui, au final, qui va lui sauver l'affaire.
Alors, personne ne le connaît vraiment. Personne, même certains, ont du mal à prononcer son nom. Philippe Bruet, qui commente la partie, pour lui, c'est juste un épiphénomène dans cette rencontre folle. Pourtant, c'est bien ce gamin de 18 ans, ce Guinéen, aux trois matchs en Ligue 1, qui va donner le titre à Bordeaux.
Pavon avec Laslande. Feindouno, il y est. Et but à l'instant face au Paris Saint-Germain. Les Girondins de Bordeaux, regardez la joie sur le banc et sur la pelouse. Eli Bob est à terre. Il est complètement recouvert par les joueurs et par les dirigeants et les supporters de ce club des Girondins de Bordeaux. Des supporters qui sont debout, bien évidemment. 3-2. C'est Bordeaux qui prend l'avantage, Thierry. Et Bordeaux qui repasse en tête du championnat de France alors qu'on est dans la dernière ligne droite.
Est-ce que vous pouvez vous imaginer, Mickaël, si votre troisième match de Ligue 1 avait été celui d'un titre exceptionnel, d'avoir donné un titre à un club comme l'a fait Pascal Feindouno ? Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce qu'il a pu ressentir ?
Ah, on peut bien sûr forcément s'imaginer, mais...
Mickaël était un talent très précoce. Hein. Oui. Lorsque vous démarrez à Sochaux, vous aviez 16-17 ans aussi.
Et très vite,
on parle de vous.
Ouais, on parle de moi. C'était un peu plus compliqué parce qu'on avait une grosse équipe à Sochaux pour pouvoir devenir titulaire. Mais bon, c'est vrai que j'étais assez précoce. Mais
pour aussi, le coup, ouais. Il l'est pas là. Pascal Feindouno, c'est bien ça que demandais à Mickaël, c'est de savoir si, alors qu'on joue des bouts de match, que c'est son troisième match de Ligue 1.
Honnêtement, je sais pas comment j'aurais pu réagir en faisant ce genre d'exploit parce que c'est quand même un exploit à son âge. Je trouve qu'il a pas fait la carrière qu'on aurait pu escompter pour Pascal. C'était un joueur très talentueux, manquait peut-être un peu de sérieux pour.
Ouais, c'est un grand joueur de
voilà.
foot.
Voilà, hein. Donc. Ouais.
4 c'est ans. Un podcast à lui seul, Pascal. Et la chose qu'on a peut-être pas Stéphane. Dite non plus, Paul, c'est qu'on a parlé de la situation de Marseille, mais celle de Bordeaux, c'est un peu la même. Parce que Bordeaux, qui a été le club ultra dominant en France dans les années 80, et même à l'échelon européen, hein, c'est des demi-finales de Coupe d'Europe à l'époque où il y avait un représentant par pays, ça voulait dire quelque chose. Et Bordeaux a été laminé par la gestion de Claude Béze, a terminé également en deuxième division. Et là, c'est un peu le... Il y avait eu la finale de la Coupe d'Europe en 96, donc 3 ans avant, avec l'équipe d'Ungary, Zidane, etc. Mais là, il vivait une nouvelle aventure après le départ de tous ses enfants prodiges du club.
Et Roland Courbis, à sa façon, avait contribué au renouveau bordelais, puisque c'est lui l'entraîneur quand Bordeaux remonte en D1, comme on disait à l'époque. Mais j'ai envie de dire une fois de plus, Roland Courbis, il est du mauvais côté. Voilà. Et donc le but de Feindouno dit que Roland Courbis ne sera jamais champion de France. Ou en tout cas, a priori, il ne sera jamais.
Juste, je voudrais revenir par rapport au fait que pas mal de Marseillais ont pensé que Paris avait lâché le match contre Bordeaux. Mais moi, je voudrais dire autre chose. Je voudrais dire qu'en fin de compte, c'est vraiment Marseille qui a perdu le titre. Qui a perdu le titre à Paris. Et je pense que Roland Courbis n'y est pas...
Étranger.
Ouais, étranger, parce que...
Vous parlez de son coaching.
Ouais, je pense que son coaching n'a pas été le bon.
Très frileux.
À ce moment-là, il a été très frileux. Très frileux, bien sûr. Il a choisi l'option un peu plus défensive, alors qu'on était, dépassé par les événements ce jour-là. On n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre.
Là, vous parlez
on était dominé
PSG-OM.
PSG-OM.
On avait deux journées précédentes.
Voilà, lorsque Paris a gagné 2-1 et Et voilà, je pense que au lieu de mettre la faute sur les joueurs, peut-être qu'on lâchait le match, le dernier match, je pense que la faute, elle est un peu sur Roland quand même.
Moi, j'abonde dans ce sens. C'est la récompense, on redit, d'un foot offensif vraiment magnifique, un des plus beaux foot pratiqués en France sur les 20 dernières saisons.
Non, Bordeaux, ce qui est notable, c'est que Marseille a eu son destin en main dans cette saison-là. C'est-à-dire que le sort des Marseillais ne dépendait que des Marseillais. Que les Marseillais fassent dépendre leur sort du Paris Saint-Germain, bah, évidemment.
Notamment pendant la 32e journée, quand très ils risqué. Ont 5 points d'avance à un moment de la partie. Bordeaux a marqué à la 89e minute, les Bordelais tiennent, et enfin, la libération.
C'est fini, ils sont champions de France, ce sont les Girondins de Bordeaux, Daily Bop, qui remportent à l'instant le titre de champion de France, version 99 des Girondins, qui auront tout connu ce soir. La joie, la déception, la colère parfois, et des Girondins d'Eli Bob à l'instant qui signent leur 5e titre dans l'histoire du football français. Voilà la patinoire, la joie en direct à la fois des joueurs, des supporters, des Girondins de Bordeaux qui sont ici au Parc des Princes et de cette patinoire et de cette ville qui va trembler toute la nuit.
Pascal Feindouno, le héros bordelais, lui en pleurs sur la pelouse, le bonheur, le stress, la joie, la tension qui redescend, obligé de laisser Ali Benarbia parler pour lui.
Ouais, mais ce qui fait surtout plaisir, c'est que la future star que va avoir Bordeaux, Pascal Feindouno, marque le but du titre et au Parc des Princes. Ça, c'est magnifique.
Pascal, tu peux rien nous dire. Passe le bonjour.
Okay. Bonjour la Guinée.
C'est énorme, Ali Benarbia qui parle à la place de Feindouno parce qu'il
et on l'entend en larmes derrière.
On l'entend en train de pleurer derrière. Il a une nez creux en plus, Ali Benarbia, en disant que la future star de Bordeaux ce serait Feindouno. Peut-être pas par sa carrière, mais en tout cas par son talent, c'est un formidable joueur de foot.
Ouais, il est marrant. Mais bon, après Ali, quand il dit ça, c'est peut-être dans l'euphorie parce que bon, il a pas eu non plus la carrière.
Non, on sentait
qu'il aurait peut-être dû avoir, mais c'est vrai qu'il avait, c'était un talent quand même, c'était un drôle de talent, c'était un drôle de joueur. Mais c'est marrant. Merci la.
Mais il a jamais plus, il a plus jamais été champion de France hein, parce qu'elle fait une doudou.
Non. Non, mais il a été au moins une fois.
Voilà, c'est ça. Il a vécu le pic de sa carrière après 3 matchs.
Exactement.
Et la réaction d'Eli Bop également à l'issue de la rencontre, le coach bordelais qui devient champion de France.
Eli, je crois que c'est le moment le plus fort de votre carrière.
Il n'y a pas photo, c'est sûr que c'est le moment le plus fort. Voilà, c'est magnifique, ça a été très dur.
On a souffert avec vous, ça a été vraiment à l'ultime minute que ça s'est décidé, et vos changements ont été très 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 bénéfiques.
Je sais pas, mais les joueurs ont répondu, on a gagné ce match, ça a été épuisant, mais on a gagné, c'est magnifique pour Bordeaux et pour nous.
Il est au micro de Gaëtan Huard, oui. Eli Bob, qui était le gardien des Girondins lors de l'épopée 96.
Il faut juste se souvenir que par la suite, du coup, Bordeaux et Marseille, hein, qui sont donc premier et deuxième du championnat, vont intégrer la Ligue des Champions, qui pour la première saison va se dérouler à 32 clubs. Et c'est important parce que finalement, aucun de ces deux clubs ne sera en mesure de gérer le championnat la saison suivante. Bordeaux va faire quatrième. Et ce qui est pas mal. Et Marseille, par contre, va galérer et se sauvera, si vous en rappelez bien, là, pour le coup, à la dernière journée. C'est qu'un an après avoir joué le titre et l'avoir perdu à la dernière journée, ils vont se sauver leur place en D1 à la dernière journée, en 99-2000.
Il y avait de la consistance à Bordeaux, quand même. C'est une équipe qui était régulière. Sous Bop, je pense qu'elle n'a jamais raté l'Europe. Il est resté 5 ou 6 ans entraîneur des Girondins et Libo.
Alors, vous parliez tout à l'heure, Mickaël, du fait que Marseille ait laissé échapper son titre. C'est ce que pense Robert Pires, qui, évidemment, lui, est triste sur la pelouse de la Beaujoire après la perte du titre au profit des Bordelais.
Ce qui est dommage, c'est ce qu'on a vécu au Parc des Princes il y a quelques semaines. Ça s'est pas produit pour le PSG. C'est vrai qu'apparemment, par rapport à la rencontre, on a été deux fois champion. Mais bon, un match, vous savez, c'est 90 minutes, donc... Malheureusement, bon, on n'est pas champion, on passe à côté d'une extraordinaire saison. Ce qu'on voulait faire, Bordeaux était plus fort que nous, tout simplement.
Vous pensez que Pires, qui n'a jamais, lui non plus, été champion de France de sa carrière, a vécu Metz la saison d'avant, donc cruelle désillusion dernière journée, et Marseille, en 99, il va filer un an après, il va encore faire une saison à Marseille, puis il filera à Arsenal.
Et puis il y a une autre désillusion aussi dans la saison marseillaise. C'est la défaite
en finale de la Coupe de l'UEFA, 3-0 contre Parme, qui avait démonté littéralement Bordeaux 6-0 en quart de finale retour. Bon, Parme qui marchait pas collé à l'époque sans doute. Avec beaucoup de très très grands joueurs, mais enfin bon, quand même c'était spectaculaire. Mais le titre marseillais ne se perd pas uniquement d'ailleurs à la 32e journée, parce qu'ils reçoivent Bordeaux au match aller à la 6e journée, et ils mènent au score, et ils se font rejoindre par Kabadiawara dans les arrêts de jeu. Vous voyez, après, il y a un classico au match aller à la 16e journée, je crois, où il y a un 0-0, et Robert Pires doit marquer un but fantastique, mais simplement, il n'appuie pas assez sa frappe, un lob en deuxième période, et du coup, Marseille, avec 0-0, ne creuse pas l'écart, et au bout du compte, ces points-là vont leur manquer dans le moment décisif.
L'ambiance dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, Mickaël, à l'issue
super
de la rencontre.
Super bonne, on a fêté le titre pour Bordeaux.
Vous avouez, Mickaël, ça y est, c'est
dit. On a sorti les champagnes, on a fait venir les Bordelais.
Bah, vous étiez peut-être avec Lilian Lasland, d'ailleurs, qui était en train de fêter le titre de Bordeaux dans les travées du parc.
Ce soir, on s'est fait peur, je pense qu'on a fait peur à beaucoup de gens, et puis à la fin, on a retenu que la victoire, et puis ce titre à fêter. J'espère que tout Bordeaux est en feu, et puis on va arriver pour remettre le feu encore par-dessus.
Ils sont allés jusque... Qu'est-ce qu'il y a, Mickaël ?
Parce que je pense... Dans leur équipe, il y a quand même pas mal de fêtards entre l'Aslande, Victor, Pays d'Uno.
Vous êtes sérieux ? Vous avez fêté avec les Bordelais le titre ?
Non, c'était une blague.
Ah ben, non, mais...
C'est une blague.
On aurait pu l'imaginer.
Non, pas du tout.
Les Bordelais sont rentrés au Parc Lescure. On a ouvert le Parc Lescure dans la nuit pour permettre à 40 000 personnes d'être dans le stade alors que les Bordelais reviennent de Paris. Il est 2-3 heures du matin. Et
donc tous les joueurs quittent la patinoire. Ouais, et Lescure, à l'époque, c'est le président du Paris Saint-Germain.
Et donc, voilà, la fin de soirée pour... Magnifique pour les Bordelais. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous et d'avoir retracé le fil de ce duel entre Bordelais et Marseillais en 1999. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Évidemment, vous pouvez jouir de cette émission sur MyCanal et en podcast.